Hotep, vous écoutez Je peux pas, j'ai thérapie, le podcast dédié à la promotion du bien-être mental des femmes et des filles afrodescendantes. Je suis Jessica Galland, auteure de projets engagés pour une vie plus consciente. Ici, je serai en quelque sorte votre personnelle développeuse. Mon ambition ? Vous aider à développer tous vos potentiels, même ceux que vous avez enfouis au plus profond de vous. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes de développement personnel qui m'ont enchantée et ont révolutionné ma vie intérieure. J'espère aussi que ces thèmes-là sauront vous inspirer et enrichir votre vie. Nous partirons à la rencontre de professionnels de la santé mentale qui porteront une voix d'éveil de conscience et qui vous apporteront des outils pour l'esprit. Je peux pas, j'ai thérapie, un podcast pour coacher sa life. Je peux pas, j'ai thérapie est un podcast que je publie tous les lundis pour bien commencer votre semaine. Vous trouverez tous les éléments dont je parle sur le blog thérapie.afrodescendante.fr. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner au podcast via votre plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, Android, ce qui vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous venez de me rejoindre, bienvenue. Je vous conseille d'écouter l'épisode d'introduction dans lequel je présente le podcast plus en détail. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais vous raconter ma propre histoire. Alors, 10 ans plus tard, je me replonge dans l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Je l'ai raconté déjà de nombreuses fois dans mon entourage, souvent en pleurs. Aujourd'hui, je peux désormais en parler sans pleurer. Je ne dirais pas que c'est parce que j'ai fait mon deuil, parce qu'avoir fait son deuil, c'est un terme dont j'ai horreur en fait. Parce que je pense qu'on n'a jamais terminé de faire son deuil. C'est un processus continu. Je préfère dire que j'ai retrouvé confiance dans la vie. Oui, c'est ça. J'ai retrouvé confiance dans la vie. Pour faire ce podcast, je dois creuser au plus profond de moi et trouver les mots justes afin de respecter toutes les personnes concernées. Moi-même, mon mari, mes filles, vous, les auditeurs qui avez peut-être vécu la même chose, et Enora, ma petite fille partie. Vous l'avez certainement compris, un jour, j'ai dû faire face à un drame et j'ai accouché prématurément. J'avais presque 6 mois de grossesse, je souffrais d'une béance du col, mais ça, je ne le savais pas encore. Cette béance du col a été la cause de mon accouchement prématuré. J'ai accouché d'une petite Enora qui nous a quittés quelques heures après, trop fragile à ce terme. Pendant mon accouchement, j'étais en pleurs, car le personnel soignant, dont le psychologue qui était un homme noir, m'avait expliqué qu'à ce terme, mon bébé ne pourrait pas survivre. J'avais donc intégré ça. Je vous passe les détails, dont ma chute de tension à toit, une hémorragie interne, parce que tout ça a été bien géré. Bref, j'ai eu de la chance. J'ai été bien pris en charge. Au début, je ne voulais pas voir mon bébé. C'était trop difficile. J'étais effondrée, je ne savais pas comment réagir, j'avais envie de voir ma fille, de la serrer dans mes bras, mais en même temps, j'avais peur de ne plus vouloir la laisser partir, à vrai dire. J'étais en proie à des sentiments contradictoires. C'était tellement injuste d'être là, d'avoir accouché, et de savoir que je devais laisser partir ma fille, parce qu'elle était vivante, ma fille. Son petit cœur battait et elle bouchait doucement. Le personnel de l'unité obstétrique a été là pour me guider. Ils m'ont rassurée, ils m'ont expliqué que c'était normal de ne pas savoir comment réagir et qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision. J'avais le choix de voir ou de ne pas voir ma fille. Mais la sage-femme m'a doucement expliqué que c'était important de prendre mon bébé dans les bras, de la voir, de la nommer, de la garder quelques heures avec nous pour vivre un moment intime avec elle. C'est ce que j'ai fait. C'était important de vivre ce moment-là. J'ai ensuite revu mon bébé à plusieurs reprises. Je l'ai même prise en photo Elle avait été habillée avec des vêtements qu'on avait achetés pour elle. Elle était tellement petite dans ses petits vêtements. Et puis est venu le temps de l'inhumation. Juste après mon accouchement, je me sentais bizarrement forte. Je voyais mon ami, qui n'était pas encore mon mari, pleurer, et moi je le consolais. J'avais cette folle sensation d'être au-dessus de tout ça, comme si je regardais la scène d'en haut, comme si je n'étais pas concernée par ce qui se déroulait. J'étais dans le déni et je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait. C'est en rentrant chez moi que j'ai eu un choc. C'était hyper difficile de quitter l'hôpital les bras vides, alors que depuis des mois, j'anticipais ce retour à la maison avec bonheur. C'est à ce moment que l'absence du bébé prend tout son sens. J'ai dû faire face à ce qu'on peut appeler les effets secondaires qui accompagnent la période postnatale, tels que les pertes sanguines, les contractions postpartum, le blues du postpartum, les montées de lait. Bref, c'était horrible. Mon corps était là à me rappeler la douloureuse réalité. J'ai fini par sombrer et ma douleur me paraissait insurmontable. Mon gynécologue m'a fortement recommandé de consulter un thérapeute. Et si aujourd'hui je peux parler sans pleurer de cet épisode, c'est sans nul doute grâce à la thérapie que j'ai suivie. J'ai quand même mis quelques jours à accepter de suivre une thérapie. La faute à quoi ? À mes croyances. La faute au regard de mon entourage. Que vont-ils penser ? Que je suis faible ? Et puis, j'ai fait face à certaines injonctions du type « prie et ça va aller mieux ». Pendant cette période, ce qui m'a le plus irrité, c'était les réflexions très maladroites du type « tu es encore jeune, tu en feras d'autres » ou encore « c'est pas si grave, elle était encore toute petite » ou « tu n'es pas la seule à qui ça arrive ». Cette banalisation de ce que je vivais était insupportable. Mon entourage ne prenait pas en compte la mesure de ma souffrance. Pire encore, moi j'avais le sentiment qu'il la niait. Il faisait comme si ma fille n'avait pas existé. Et pourtant, je me sentais mère. Oui, je me sentais mère d'une petite fille partie certes trop vite, mais je me sentais maman. Je me sentais la mère d'une petite fille qui s'appelait Enora. J'avais quand même accepté de prendre un anxiolytique léger, juste pour pouvoir me détendre et dormir un peu. Bon, ça c'était déjà un grand pas pour moi. C'est fou parce que, à l'époque, quand je pensais antidépresseur, anxiolytique, je faisais un parallèle. Je pensais, j'avais cette image de la femme blanche dans les films américains, un peu tremblante, qui tente d'avaler ses cachets, un verre d'eau à la main. Et c'est vrai que j'avais une image très négative, en fait, du fait de prendre des anxiolytiques. Pour moi, c'était vraiment un aveu de faiblesse. Voilà. Déjà que la femme noire n'était pas très représentée. Alors, évidemment, j'avais aucune femme noire à laquelle m'identifier dans ce contexte. Et je pense que dans le cadre de ce que je traversais, eh bien, ça m'a manqué de ne pas pouvoir m'identifier à une femme noire. Bref, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de cette problématique d'identification dans ce contexte-là. Pour la petite histoire, alors cet événement douloureux de ma vie s'est déroulé en 2009. Plus précisément, à la période où Michael Jackson est mort. J'étais une très grande fan de Michael Jackson, bien sûr, mais je n'ai pas eu une once de tristesse. Et pour cause, j'étais moi-même en train de me débattre chaque jour avec ma souffrance. Alors, clairement, la mort de Michael Jackson, c'était un micro-événement pour moi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la mort de Michael Jackson est inextricablement liée à la mort de ma fille. Je ne sais pas vous, mais moi je l'avoue, je n'ai pas toujours été ouverte aux questions relatives à la santé mentale. J'avais nombre d'idées reçues, et la principale idée préconçue que j'avais consistait à dire que la dépression était une maladie de blanc dont les noirs ne pouvaient pas souffrir en raison de leur grande capacité à surmonter les épreuves difficiles compte tenu de leur histoire douloureuse, et notamment l'esclavage. Je pensais également que quand on est amené à consulter un thérapeute, c'est forcément parce qu'on a un grain, une sorte de déséquilibre. Bref, j'avais un tas d'idées reçues. On est d'accord, tous ces paradigmes sont absolument faux. Et je vais le répéter, hein, comme pour exorciser ces pensées fausses et dangereuses que moi-même j'ai véhiculées, les Noirs aussi peuvent être touchés par les maladies mentales. Les maladies mentales peuvent toucher n'importe quel individu, sans considération d'origine, de sexe ou de classe sociale. Dans les communautés afrodescendantes, l'image de la femme noire est celle d'une femme brave, courageuse et résiliente. Et moi, je ne me sentais pas du tout courageuse ou résiliente. J'avais beau prier, mais rien n'y faisait, et on me disait « redouble de prière ». Cette injonction à prier était plus que culpabilisant, un peu comme si, si je n'allais pas mieux, c'était parce que je n'avais peut-être pas assez prié. C'était comme si c'était de ma faute, hein, finalement. Ne vous me prenez pas, je ne suis pas en train de dire que prier ne sert à rien. Mais clairement, dans mon cas, c'était pas la solution suprême. Et un beau jour, je me suis réveillée, lasse de lutter avec moi-même, et j'ai pris rendez-vous avec la thérapeute conseillée par mon gynécologue, qui était une thérapeute spécialisée dans le deuil périnatal. Alors, pour la définition de périnatal, pour ceux qui ne le savent pas, la mort périnatale peut survenir donc soit en cours de grossesse, à la naissance, ou durant les 7 premiers jours de vie. Alors, j'ai laissé tomber mes résistances. Bon, il faut dire que cette période était tellement douloureuse que je sentais bien que j'avais besoin d'aide. Donc, je suis allée voir consciencieusement la thérapeute plusieurs fois par semaine. J'en ai pas parlé à mon entourage, à part à mon mari, parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur qu'on dise qu'elle n'est pas capable de surmonter ça seule, qu'elle est faible, voilà. Et cet accompagnement a été nécessaire. Dans mon cas, j'en avais vraiment besoin, clairement, je dirais que ça a été salvateur. Alors aujourd'hui, j'ai un message d'utilité publique destiné précisément à ma communauté. Alors, se faire accompagner par un psychothérapeute ou par un psychiatre quand le besoin se fait sentir, peut être à envisager. Ce n'est en rien une marque de faiblesse, au contraire, je dirais que c'est faire preuve de lucidité et de force. Bon, dans mon cas, il n'était pas question de dépression, mais de deuil. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le deuil n'est pas une maladie ou une dépression, mais c'est un processus naturel qui comporte plusieurs phases. Néanmoins, ça peut être une période très, très, très douloureuse et qui peut être vécue de différentes façons. Peut-être que quelqu'un d'autre surmonterait cette période sans l'aide d'un psychothérapeute. Moi, j'en ai eu besoin. Voilà. J'en ai eu besoin et donc, et je suis très contente de l'avoir fait. Dans ces 5 étapes, donc il y a la première qui est le déni, donc le refus de la réalité. La deuxième étape qui est la colère, la protestation, celle où on recherche un coupable, possiblement le personnel médical et soignant, dans mon cas. Il y a une troisième période qui est la période de prise de conscience du caractère définitif de la perte. Hein, c'est vraiment l'étape où on est très douloureuse, hein, où on a très peur, on se sent puissant, on se sent désespéré, on se replie sur soi, parfois il y a une rupture de communication avec son conjoint, avec son entourage. Bref, ça c'est une période très 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 difficile. Ensuite, la quatrième période, c'est la période de la résignation. Vous savez, période où on se réorganise un peu, où on recherche du sens, où on recherche du soutien, où on recherche à modifier son quotidien, à retravailler, voilà. Et la cinquième phase, c'est la phase d'acceptation, ou plutôt, on va dire d'adaptation. On s'adapte à sa vie, on se réadapte à sa vie malgré cette perte douloureuse. Donc, on est à la recherche de stabilité, de paix, de sérénité. Donc je suis évidemment passée par toutes ces étapes qui sont nécessaires hein, pour atteindre l'acceptation et le début du processus de deuil. Et voilà, je me rends à ma première séance. Je me suis tout de suite sentie à l'aise avec ma thérapeute. Elle m'a accueillie avec un doux sourire et une voix douce, comme enveloppante. Je m'attendais à ce qu'elle me demande de m'allonger sur le canapé, mais non. Je sais pas vous, mais dans mon imaginaire, je me représentais systématiquement une séance chez le psy, allongée sur un divan. C'est vrai que dans les films ou les séries, c'est comme ça que ça se passe. On voit le thérapeute du sexe masculin, cheveux grisonnants, avec des lunettes et un bloc-notes entre les mains. Mais en réalité, ma thérapeute, donc c'était une femme, plutôt jeune, et elle m'a proposé de m'installer comme il me plaisait. Moi, je ne me suis jamais allongée. Hein. J'étais libre de fait de m'installer comme il était confortable pour moi. Et je me suis toujours assise, en fait. C'était confortable pour moi, donc voilà. Elle m'a mise en confiance. Hein. Elle m'a expliqué que cet espace était le mien, que je pouvais absolument tout dire, faire ressortir naturellement mes émotions. J'étais libre de pleurer. Elle a posé un cadre. Et je me suis sentie libre de m'exprimer de toutes les manières possibles. Donc, elle savait en amont que j'allais venir. Elle avait déjà mon dossier médical entre les mains. Et elle savait précisément ce qui m'était arrivé d'un point de vue médical, justement. Donc, elle s'est présentée. Elle a expliqué qu'elle était spécialisée dans le deuil périnatal. Et elle m'a expliqué que le deuil que je devais faire n'avait rien à voir avec le deuil qu'on fait quand on perd un proche, un adulte, par exemple. Mon deuil était particulier. Enfin, quelqu'un qui le reconnaissait. En fait, le deuil périnatal est particulier dans le fait où il intervient à un moment qui était destiné à l'arrivée à la vie. C'est pas un deuil du passé, hein, c'est un deuil de l'avenir, de la vie qui ne se déroulera pas, finalement. C'est l'assimilation de la réalité du décès qui est compliquée par le fait de perdre un enfant qui n'a jamais été présent, ou peu, physiquement. Il n'y a pas d'absence remarquable de souvenir, donc c'est en cela que c'est difficile. Donc c'est faire le deuil de l'avenir, de ce qu'on aurait pu vivre avec cet enfant-là. Ensuite, elle m'a demandé de lui raconter. De lui raconter ce qui s'est passé. Donc, j'ai beaucoup parlé. Et elle m'a beaucoup écoutée, attentivement, avec empathie, avec bienveillance, sans jugement. Elle comprenait. Ce qu'elle a fait de capital dès le début a été de considérer ma fille disparue comme un individu à part entière. D'en parler. Vraiment, de lui donner une existence. Avec elle, je l'appelais par son prénom. Elle était ma fille, j'étais sa mère. Dans cet espace sécurisé dans lequel j'allais plusieurs fois par semaine, je devenais moi, je me laissais aller. Alors, j'ai fini par dire à ma thérapeute à quel point je me sentais coupable, à quel point je me sentais nulle de n'avoir pu donner la vie. Je n'arrêtais pas de me questionner sur ce que j'avais fait de mal pendant ma grossesse. Pourquoi mon col de l'utérus avait lâché comme ça sans crier gare? Bah oui, pourquoi? Pourquoi mon col s'est ouvert? Comment on peut l'expliquer? Je m'en voulais, mais j'en voulais aussi à mon gynécologue, j'en voulais au corps médical. J'avais besoin de trouver un coupable, donc c'était tantôt moi, tantôt eux. Ma thérapeute m'a alors conseillé de demander mon dossier médical pour comprendre ce qui m'était arrivé. J'ai compris hein, certaines choses. J'ai notamment compris que j'avais été bien prise en charge et j'ai notamment compris que j'avais eu un très bon suivi. Alors c'est vrai que je vous ai pas raconté les circonstances qui m'ont conduite à l'hôpital. Il faut savoir que j'étais à mon 5e mois de grossesse, donc c'était le jour de ma 5e et de mon échographie du 5e mois. Et donc, l'échographie, c'était plutôt... commençait bien, hein. Tout allait bien, jusqu'au moment où il constate que mon col est effacé, et que ma poche des os est bombante. Donc là, il m'a dit, madame, partez immédiatement à l'hôpital aux urgences. Je suis partie immédiatement. Le cabinet était juste en face de l'hôpital de Lagny. J'ai traversé la rue. J'ai été prise en charge à l'hôpital immédiatement. J'y suis restée 3 semaines. On a croisé les doigts pour que ma grossesse se poursuive hein, jusqu'à un terme correct. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu une infection, j'ai eu des contractions, j'ai accouché prématurément. Et donc, voilà. Et donc, depuis ce moment-là, hein, la question, savoir pourquoi mon col avait lâché, m'obsédait. Et donc, mon gynécologue de l'époque m'avait donc conseillé de faire une batterie d'examens afin de savoir quelle était la cause de mon accouchement prématuré. Donc le diagnostic est tombé, je souffre d'une béance du col. Non mais c'est quoi une béance du col? Pourquoi j'ai une béance du col? Alors c'est quoi une béance du col? Alors c'est quand le col de l'utérus n'est pas bien fermé, qui ne joue pas son rôle de verrou. C'est un rôle qui est pourtant indispensable pour protéger le fœtus des infections et surtout pour le retenir dans l'utérus. Donc, les causes de la béance du col sont multiples. Alors, dans mon cas, il s'agit d'une cause congénitale, une malformation utérine du col. Mon col est très court, mon utérus est petit, en forme de cœur, pour l'anecdote. C'est pas un lot de consolation, non. Bref, bon. J'avais une explication, c'était déjà ça. Même si c'est de mon corps dont il s'agit, je ne suis pas responsable, les médecins non plus. On ne peut pas anticiper les béances du col avant une première grossesse, d'autant plus qu'il s'agit d'une malformation congénitale. Donc maintenant que je sais quelle est la cause de la perte de mon bébé, alors les questions que je me posais c'est quelles sont les solutions pour mener à terme une grossesse? Et donc j'ai revu ma thérapeute. Je lui ai expliqué ma pathologie, ça nous a permis de remettre les choses à plat, ça m'a permis d'intégrer le fait que je n'étais pas responsable de mon accouchement prématuré, que le corps médical n'était pas responsable de mon accouchement prématuré. Et donc, j'étais plutôt dans une phase d'acceptation de ce qui m'était arrivé. Elle m'a conseillé un forum sur lequel des femmes atteintes de la même pathologie discutaient. C'était le forum des maternelles de France 5. Waouh, ce forum, une bouffée d'air fraîche. Je me suis connectée à un groupe de femmes qui souffraient également de béance du col et qui avaient également perdu des bébés au même terme que moi. Certaines de ces femmes avaient parfois perdu 5-6 bébés. C'est fou parce que je discutais avec des femmes des quatre coins de la France, de l'outre-mer. C'était incroyable cette façon d'être solidaire dans l'épreuve, de s'identifier, d'avoir le même vécu, les mêmes ressentis. Bref, parler avec des femmes qui ont eu la même expérience que moi a été l'un des leviers les plus importants pour intégrer mon processus de deuil et envisager une nouvelle grossesse. Alors, j'étais au stade où j'avais fait un vrai travail de deuil qui m'avait permis d'accepter le départ de ma fille et de me projeter dans une nouvelle grossesse en ayant bien à l'esprit le fait que ce nouveau bébé ne remplacera pas Enora, ne s'appellera pas Enora non plus. Je le précise parce qu'à un moment donné, je m'étais projetée avec un bébé qui serait une petite fille et que j'appellerais également Enora, même si je trouvais que ça bizarre, mais ça m'a quand même effleuré l'esprit. Et donc, c'est important aussi pour moi d'avoir à l'esprit le fait que ce nouveau bébé ne prendrait pas la place d'Enora. Enora était mon premier enfant et ça pour toujours. J'insiste, mais ce forum a été vraiment salvateur. Aussi salvateur que mon travail avec mon thérapeute. Alors la parole et l'entraide sont des armes redoutables. Avec les mamanges, parce que c'est comme ça qu'on s'appelait, donc c'est la contraction de maman et d'ange. Alors on a cheminé pendant plusieurs mois ensemble, presque des années, chacune à des stades différents. Certaines étaient enceintes, d'autres en train d'essayer, d'autres encore venaient de perdre leur bébé. On s'encourageait, on se donnait des conseils, on pleurait ensemble. Quand un nouveau drame survenait, on était dévastés. On était heureuse aussi hein, quand une grossesse arrivait à son terme ou quand on apprenait que le test était positif. Voilà, c'était vraiment une période que j'ai partagée avec ces mamans-là et je n'oublierai jamais cette solidarité, cette sororité. Et c'est ainsi que le professeur Tourner de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul m'avait été recommandé. Alors, je voulais être suivie par le spécialiste de l'abéance du col et le spécialiste de l'abéance du col, c'était le professeur Tourner à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc, moi, j'habitais Saint-Lon-la-Bretèche, plutôt vers Versailles, et l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, c'était dans le 14e. Donc, autant vous dire que c'était pas vraiment à côté. Donc, je vous passe les détails et les difficultés. Il m'a suivi pendant toute ma grossesse, hein, après m'avoir posé un cerclage particulier, hein, un cerclage bandelette, par opposition au cerclage basique filaire. Celui que j'avais eu était beaucoup plus résistant et c'était apaisant en fait de savoir que mon cerclage était solide. Parce que j'ai lu pas mal d'histoires avec des femmes qui avaient un cerclage filaire basique et qui perdaient quand même leur bébé parce que le cerclage n'était pas assez résistant. Bon, grâce à ces bons soins, grâce à ces bons conseils, j'ai accouché un jour avant mon terme, soit le 15 septembre 2010, au lieu du 16 septembre 2010. Alors, à noter que j'ai été alitée dès le premier mois, et dès le deuxième mois, le gynécologue me disait « Votre col est ouvert ». Pourtant, j'étais alitée. C'est pour vous dire à quel point mon col était incompétent. Donc, j'ai été cerclée au troisième mois. Et voilà, je me suis raconté dans ce podcast, raconter cette histoire et revenir 10 ans en arrière a été une expérience assez intéressante. Ça m'a permis de me rappeler certaines choses que j'avais oubliées. Donc voilà, je ne vais cesser de le répéter, la vie apporte son lot d'épreuves, c'est certain. Et certains passages obligés dans la vie, tels que le deuil, la rupture amoureuse, une blessure traînée depuis l'enfance, un échec professionnel. Et parfois la douleur s'installe, ou les stigmates du passé ressurgissent, et c'est là qu'il faut agir. Commencer une thérapie peut être nécessaire et peut sauver une vie au sens propre comme au sens figuré. Je vais terminer ce premier épisode sur ces mots, extrait de l'article « Le tabou de la dépression chez les femmes afrodescendantes » du blog Afroféminista. L'émancipation de la femme afrodescendante ne sera complète que lorsqu'elle sera libre de toutes les chaînes qui l'oppressent et qui la maintiennent dans une position d'infériorité. Reconnaître les faiblesses de la femme noire n'est en aucun cas une manière de la déprécier, mais plutôt une façon de lui permettre de s'exprimer, de s'affirmer, mais également d'exister. C'est par le seul biais de l'émancipation et de l'affirmation qu'elle pourra consolider sa place dans ce monde et accomplir sa destinée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.